Bienvenue sur Europe 1, il est 6h.
Je pense que l'OTAN aujourd'hui est dans une situation qui nécessite une très grande clarification stratégique.
L'ouverture aujourd'hui du sommet de l'OTAN à Bruxelles avec le retour des États-Unis dans la coalition. Pour Emmanuel Macron, il est désormais temps que tous les pays membres travaillent ensemble. Dans ce journal, le début d'une nouvelle ère en Israël après l'annonce d'un nouveau gouvernement et la mise à l'écart de Benjamin Netanyahou. La suite du procès du meurtrier de Julie Dwib en Corse et puis l'art abstrait américain de l'après-guerre exposé à Nantes jusqu'à la mi-juillet. C'est un partenariat européen.
La page des sports à suivre et mon invité inattendu alors que le festival du film d'animation s'ouvre à Annecy. C'est une voix qui sera avec nous dans un quart d'heure, une voix d'enfant, la voix d'un personnage de dessin animé bien connu. C'est parti, bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après le G7 en Angleterre, place au sommet de l'OTAN à Bruxelles aujourd'hui. Deuxième étape de la tournée européenne de Joe Biden. Après quatre années quelque peu tendues sous l'ère Trump, ce sommet marque le retour des États-Unis dans la coalition. Et maintenant, Isabelle Horry, l'enjeu pour les Européens, c'est de savoir s'ils se rangent derrière les États-Unis ou s'ils affirment un peu plus leur autonomie.
Oui, c'est clair qu'Emmanuel Macron, lui, veut que les Européens parlent d'égo à égo aux Américains. Il veut un vrai partenariat, pas le retour du grand frère. D'ailleurs, le président a lancé quelques piques ces jours derniers, par exemple sur la Chine, que les États-Unis voudraient faire identifier comme le nouvel ennemi commun. La Chine n'est pas dans la géographie atlantique, ou alors ma carte a un problème, a-t-il fait remarquer lors d'une conférence de presse. Mais pas sûr que ces velléités d'indépendance soient trop du goût des autres Européens, de l'Allemagne notamment. Soulagés, ils veulent d'abord savourer le retour américain. Effacer le traumatisme Trump. En 2018, lors du précédent sommet de Bruxelles, il avait provoqué un esclandre. Contraste, Joe Biden lui a dès hier réaffirmé que la défense d'un allié attaqué restait une obligation sacrée pour les États-Unis. En tout cas, lors de cette journée, les dirigeants doivent jeter les bases du futur concept stratégique de l'Alliance. Quels sont ses nouveaux ennemis? Le cyber, le terrorisme, la Chine, la Russie? C'est le sommet des retrouvailles, mais il y aura du fond aussi.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Des scènes de liesse hier soir en Israël, à Tel Aviv. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour célébrer l'éviction du pouvoir de Benjamin Netanyahou.
Après 12 ans de règne, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le pays. Le Parlement a voté pour entériner une coalition du changement, un gouvernement qui réunira des partis de gauche, du centre, de droite ainsi qu'un parti arabe. Et c'est le chef de la droite radicale, Naftali Bennett, qui deviendra le nouveau Premier ministre. Écoutez.
Pour que le gouvernement fonctionne, nous devons tous maintenir la retenue et la restriction concernant les aspects idéologiques. Voilà ce que dit Naftali Bennett.
Mais alors, cette nouvelle coalition pourra-t-elle vraiment agir en profondeur sur le pays et même se pencher sur la question du conflit israélo-palestinien? Écoutez la réponse de Frédéric Ancel, géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient, invité du 18-20 de Wendy Bouchard hier soir.
On n'a pas grand-chose à attendre sur ce volet-là pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, la coalition est beaucoup trop hétéroclite, donc oui. Elle va s'occuper de social, elle va s'occuper de budget, ce qui n'est pas rien, hein. Elle va s'occuper de la voirie, des investissements, dans une certaine mesure de la diplomatie, mais certainement pas du dossier israélo-palestinien, parce que là, effectivement, il y a trop de différences entre les 8 partis qui composent cette coalition.
Frédéric Ancel au micro de Wendy Bouchard hier soir sur Europe 1. De son côté, Benjamin Netanyahou assure qu'il restera en politique et sera de retour bientôt au pouvoir.
6h04 sur Europe 1 en France, la suite du procès du féminicide de Julie Dwib, tuée par son ancien compagnon il y a 2 ans.
Mais l'accusé continue de nier la préméditation, alors que ce jour-là, il est allé armé chez la victime et qu'il a tiré au moins 2 fois la touchant mortelle au thorax. La journée d'aujourd'hui sera consacrée à sa personnalité et l'avocat de la famille de Julie Dwib espère qu'enfin, il va dévoiler la vérité. Maître Jean-Sébastien de Casalta.
C'est quelqu'un d'extrêmement froid, dépourvu d'émotivité. Monsieur Garcia a préféré s'enfermer dans cette posture du déni. Il est encore temps pour lui de dire la vérité, de s'expliquer, d'expliquer par exemple qu'il était envahi par la jalousie, que cette jalousie était terrible et qu'il n'arrivait pas à se dominer, qu'il n'arrivait pas à la contrôler et qu'il en était arrivé à traquer la mère de ses enfants, à la poursuivre, à la pourchasser, à la menacer, à la harceler, à la violenter psychologiquement, physiquement. S'il pouvait le dire, s'il pouvait lâcher quelques mots qui puissent nous permettre de comprendre ce qui a pu l'habiter au moment de ce geste. Je crois que cela permettrait effectivement d'éclairer un certain nombre de zones d'ombre.
Des propos recueillis par Marion Dubreuil.
On en vient à ce geste de l'Élysée pour les jeunes, geste qui se transforme en casse-tête pour les missions locales.
Europe 1, vous le révélez début mai, Emmanuel Macron doit annoncer prochainement une garantie jeune universelle, 500 euros en échange d'un accompagnement obligatoire pour l'emploi. Jean-Rémy Baudot, vous suivez ce dossier. Ce dispositif, qui pourrait être généralisé, suscite pas mal d'inquiétudes, notamment du côté du ministère de l'Économie.
Oui, et c'est bien cette généralisation qui crée des sueurs froides à Bercy. Objectif, 700 000 à 1 million de bénéficiaires. Les calculettes ont chauffé et une note du ministère de l'Économie parle d'une dépense de 2,4 milliards d'euros par an. Un chiffre qui ne comprend pas les coûts d'accompagnement. Une dépense massive et des questions sur les effectifs nécessaires. Un ministre à Bercy pense que les missions locales n'auront jamais les salariés suffisants pour accompagner autant de monde. On risque une dilution de l'encadrement des jeunes, dit-il. Il faudra en urgence former des formateurs. Pas de quoi impressionner d'autres membres du gouvernement. Selon nos informations, la montée en puissance du dispositif est actuellement étudiée par un énarque qui pilote l'ensemble. Le coup de pression de Bercy pourrait-il fragiliser le projet porté par Elisabeth Borne ? A priori non, car tous les ministres que j'ai pu interroger, qu'ils soient pour ou contre ce dispositif, tous s'accordent sur un point. C'est Emmanuel Macron qui tranchera et le signal politique qu'il recherche avec cette garantie jeune universelle dépasse largement le coût de cette mesure.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Vous restez avec nous. Dans quelques instants, l'abstraction américaine mise à l'honneur du musée d'art de Nantes. On vous y emmène dans quelques secondes. À tout de suite, il est 6h07.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
6h08, la suite du journal Sophie Echen.
Et une idée de sortie pour les amateurs de peinture au musée d'art de Nantes. Une exposition consacrée à l'abstraction américaine de l'après-guerre. Un avant-goût de la visite avec Diane Chinouda.
Le sable ocre d'un côté, puis la mer au bleu profond de l'autre. C'est une vision abstraite de la plage d'Antibes, vue d'avion. Un des tableaux de ces nombreux artistes américains venus en France au lendemain de la guerre. Comme Sam Francis, grand maître de l'abstraction américaine, ou Joan Mitchell, la célèbre peintre très inspirée par la nature à Giverny et par Paris. Sophie Lévy, la directrice du musée d'art de Nantes.
Quand vous regardez l'œuvre, vous êtes frappé par le côté explosif, puissant des traits. Puis tout d'un coup, vous distinguez une forme qui évoque les fontaines anciennes de Paris.
Le point commun de tous ces peintres, c'est l'art du jaillissement, des couleurs vives et leur liberté.
C'est la libération, hein, c'est vraiment l'époque de la libération, donc une libération aussi des artistes et de la possibilité de créer. Cette exposition est parfaite pour sortir de sa cabane. Ces artistes étaient tout jeunes, qui sortaient de la guerre, pleins d'espoir. Et je trouve qu'il en reste quelque chose de très positif. Enfin, en tout cas, c'est l'effet que ça me fait à moi.
Et oui, ça fait du bien, toutes ces couleurs, en ce moment, comme un retour à la vie.
Diane Chénouda du service culture d'Europe 1, United States of Abstraction, une exposition Europe 1 à découvrir au musée d'art de Nantes jusqu'au 18 juillet, et puis à Montpellier au mois d'août.
Voilà pour ce conseil. Merci à vous, Sophie Echen, 6h10 sur Europe 1.